Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Louis, quand on est artiste, on doit souvent expliquer avec des mots ce qu'on vient de dire en image. Et c'est un exercice qui est souvent très difficile parce qu'on a vraiment la sensation qu'on vient enfin d'exprimer quelque chose de juste et de complet. Et il faut le retraduire. Et souvent, ça casse une espèce d'équilibre qu'on avait cherché. Et le fait de le transposer en mots, ça casse un peu ça. Soit ça tombe à plat, c'est souvent... moi, mon problème, souvent, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu bateau ou basique. Ou alors, beaucoup trop loin dans l'intellectualité. Et donc, je pense que j'arrive mieux à m'exprimer, en effet, en images.
Léa Abourdin est photographe et c'est la troisième artiste exposée à Arles que je rencontre cette année. Face à la violence caniculaire qui répète l'ineptie de nos modes de vie, le travail de Léa Abourdin est une réponse onirique. Accompagnée de professionnels, elle a passé 2 ans à documenter des forêts relativement protégées de l'influence humaine. Elle a ensuite réalisé ses tirages en extrayant de la chlorophylle photosensible de végétaux et en utilisant des pigments de plantes. Certains de ses tirages ne résistent pas à la lumière du jour. Si vous ouvrez les volets qui les protègent, vous leur enlevez un tout petit peu de vie, mimant notre impact sur les forêts que l'on continue de fouler. À l'occasion des rencontres d'Arles, dont Louis Média est partenaire, je suis allée rencontrer Léa Abourdin pour évoquer son travail poétique dans son atelier à Malakoff. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Alors moi j'ai grandi à Béthune, qui est une ville du Nord-Pas-de-Calais... à taille humaine, on va dire. Il y a 2 théâtres, un cinéma, voilà. Dans un contexte tout à fait simple, mes 2 parents, dans une maison avec un petit frère et un chien. Et je pense que ce qui a beaucoup teinté mon enfance, en tout cas tous mes souvenirs sont là, c'est que tous les étés, on les passait dans la petite campagne environnante à faire des aventures à vélo et secourir les oiseaux, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un disait que plus le monde avance et plus on manque d'expérience de nature. Ce qui résonne beaucoup quand on est citadin, on recherche assez vite ça. Et je pense que c'est ça que j'ai grandi, en fait, avec ces petites expériences de nature qui font tout.
Vous sentiez déjà à l'époque que c'était quelque chose qui vous habitait, ce besoin de nature, d'être en contact avec le vivant autre que le vivant des villes?
Alors, je pense que quand on est enfant, on fait pas de comparaison avec ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Donc, pour moi, c'était une évidence, c'était notre maison... mais ce que je sais, c'est que c'était quelque chose de familial. C'est-à-dire que c'était très important pour tous les quatre de rouler à fond la caisse le long des champs de blé de coquelicots. Et du coup, je pense que tous les échanges... intime de famille était autour de ça.
Dans vos discussions?
Non, mais j'ai des souvenirs. Déjà, mes parents, c'était le moment où ils ne travaillaient pas. Donc, on a des bons souvenirs d'enfants, des parents qui ne travaillent pas. Mais je me souviens, voilà, on a sauvé un pigeon voyageur. Alors, on était tous les quatre à appeler le monsieur. Et la discussion, après, se faisait autour de ça. Comment on va l'aider. Et il y a eu toujours des aventures comme ça, on va dire.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené ensuite à décider de faire des études d'art, d'estampes d'abord et de photos ensuite?
Alors ça, c'est une histoire marrante parce que moi, j'ai fait un bac scientifique. J'avais jamais dessiné, j'avais jamais montré une créativité comme ça en dehors de dans ma tête, on va dire. Et parce que je pensais que l'art, c'était pour les gens qui avaient un don. Et donc, comme j'avais estimé que j'avais pas ce don, je me l'étais interdit. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Bah non, en fait, ça s'apprend, on fait une école, et puis on peut apprendre. Même dessiner, on peut apprendre. » Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit « Bah, si ça s'apprend, bah chouette, du coup, j'y vais. » Et je me souviens de la surprise même de ma famille quand j'ai dit « Je veux faire des études d'art », parce que vraiment, ils m'avaient pas vu venir sur ce coup-là. Mais heureusement, bah, j'avais des parents ouverts et puis qui avaient eux-mêmes étudié à Paris, donc avaient des contacts qui pouvaient se renseigner. Et donc, je suis partie comme ça. Bon, j'ai d'abord dû faire une prépa parce que je partais de très loin, où j'ai dessiné 12 heures par semaine, 20 heures par semaine. Et puis, bah, voilà, ça s'apprend, comme tout, en fait. Et après, je suis arrivée à Estienne et c'est fou parce que moi, j'ai toujours eu un amour de l'objet livre, des carnets, des choses comme ça. Et d'arriver dans l'école du livre, c'était merveilleux. Enfin, je me souviens que des fois, j'allais dans l'atelier de reliure juste pour les voir faire des livres. Ça sonne un peu... un peu fangirl comme ça, mais en fait, c'est tellement beau, même les outils, et puis comme c'est l'école du livre, ils ont 300 fers à dorer différents, et oui, moi j'ai beaucoup aimé, même si elle est très dure, j'ai beaucoup aimé du coup évoluer là-dedans.
Et comment ça s'est fait, cette personne qui vous a dit, mais ça s'apprend, c'est quelque chose que vous saviez que vous rêviez de ça, mais ça vous semblait inaccessible, ou vous en rêviez même pas? Est-ce que vous étiez spectatrice de photos, d'art?
Oui, alors moi, quand j'étais petite, je voulais être poétesse, et j'adorais la poésie. Donc je pense que j'avais quand même une envie créative. Qui s'est transformée avec un élan vers le dessin, mais je pense que ça marche aussi avec l'adolescence. À cet âge-là, quand on sait dessiner, on est un peu le gars cool ou la meuf cool de la promo. Et comme moi, vraiment, je savais pas, j'avais tout arrêté en me disant j'ai pas été frappée par la grâce du dessin. Mais j'allais voir des expos quand je pouvais, parce que Béthune, il n'y avait pas d'exposition, mais je me souviens très bien d'un jour, on était en lendemain de soirée adolescente, et les copains me disent « Ah, on ne regarderait pas un film ?» Et je dis « Ah ben là, j'ai vu, vous avez un Almodovar en DVD, je le regarderais bien. » Et je me souviens de leur tête, genre « Mais on est en gueule de bois, qu'est-ce que tu veux regarder un Almodovar ?» Alors que moi, c'était vraiment le... chouette, je l'ai jamais vu. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc où j'étais curieuse de ça aussi. Là où tout le monde ne l'était pas. Parce qu'on a aussi un truc où se dire, tout le monde est comme je suis. Que là, vraiment, j'étais seule face à ce DVD.
Et une fois arrivée en école d'art, comment est-ce que vous choisissez votre médium? Comment est-ce que vous passez d'abord de l'estampe, ensuite à la photographie? Puis on va y revenir ensuite à des formes spécifiques de photographie. Mais comment vous vous dites, moi, c'est dans cet art-là que je peux m'exprimer, que je peux raconter ce que j'ai envie de raconter?
Alors l'estampe, c'est arrivé parce qu'à l'école Estienne, on doit repasser par une année préparatoire, où on fait un tour de 4 ateliers, donc c'est dessin de typographie, illustration et gravure et reliure. Et je me suis longtemps posé la question avec la reliure, parce que vraiment je trouvais que c'était très beau comme métier, mais j'avais peur de... Comme je suis quelqu'un qui tient pas en place, et que la reliure, il faut être quand même très très... très calme et très posée toute sa vie. J'avais vraiment peur de me lasser trop vite. Or, la gravure, y avait vraiment tout à apprendre parce que c'est une pratique qui est très, très technique et qui, en plus, pardonne pas au niveau du dessin. Ça se voit tout de suite. Donc, peut-être qu'il y avait aussi le côté j'arrive de nulle part et je veux y arriver, que je me suis mis toute seule. Hein. Qui est peut-être un peu bête, mais en tout cas, c'est comme... Voilà. Et en plus, en gravure, il y avait la prof de gravure, c'était Françoise Petrovitch, enfin c'est toujours d'ailleurs, Françoise Petrovitch, qui est une très grande artiste. Et donc, j'avais une espèce de, on peut dire, de culte. J'étais très admirative de voir une femme très grande artiste qui était ma prof. Et je pense que ça m'a aidée aussi à passer, parce que Estienne, c'est une école d'art appliqué. Qu'il y a une hiérarchie dans les écoles entre, par exemple, les beaux-arts, qui sont vraiment pour l'art contemporain, et l'art appliqué, qui est plus proche de l'artisanat. Et donc, quand on a Estienne, on peut se dire artiste, mais le reste du monde des beaux-arts a plus de difficultés à nous voir comme ça. Or là, bah, j'avais une possibilité, parce que ma prof était artiste, et en plus, bah, c'était une femme, et il faut le dire, ça fait du bien de pouvoir... Moi, je me suis souvent projetée en me disant, bah, si elle a réussi, moi, je peux réussir.
Et est-ce que tout de suite, vous décidez de travailler sur la question du vivant, de vous centrer là-dessus dans vos œuvres ?
C'est en arrivant à l'école d'Arles, où là, on nous pousse à chercher plus loin dans les concepts et l'intellectualisation des travaux, que très très naturellement j'ai commencé, bah, les premières lectures de référence c'était Jean-Christophe Bailly avec le versant animal, ça a été une claque totale, et puis l'éthologie, et je trouvais ça hyper chouette de voir que par exemple il y avait une science qui permettait d'expliquer les comportements humains en regardant les comportements animaux.
Qu'est-ce que ça raconte, le versant animal ?
Le versant animal, ça commence avec quelque chose de très beau, qui explique tout le reste du livre. Il explique que quand on conduit sur une route de campagne la nuit, s'il y a un cerf ou un petit lapin qui est pris dans les phares de la voiture et qui court devant, on est complètement saisi par cette vision. Et c'est un moment suspendu, vraiment, qu'on vit, jusqu'à ce qu'il retourne dans le domaine de l'invisible. Et moi, je trouve que ça explique très bien notre rapport au sauvage, c'est-à-dire que on peut y avoir accès que par petites bribes comme ça, et ces petites bribes sont très, très intenses, et presque on oublie de respirer à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que... j'ai réussi à aussi expliquer pourquoi c'était intéressant de regarder notre rapport au sauvage, de voir qu'on veut y aller, mais qu'il y a une espèce d'abîme. Jean-Christophe Bailly parle aussi d'abîme infranchissable entre les deux, mais qu'il y a quand même une fascination qui est présente.
Et alors, dans le travail que vous présentez à Arles cette année, c'est un travail sur les forêts. Partant du constat qu'il n'y a plus de forêts primaires en France, vous êtes allé explorer, avec des gens dont c'est le métier, avec des scientifiques, des forêts qui sont encore quand même très préservées. Qu'est-ce qui préside à ce désir-là d'aller explorer ces forêts et d'en faire des images hyper oniriques, finalement, pour raconter quelque chose de très réel, qui est notre impact sur l'environnement et la dégradation de ce monde ?
Ce qui préside à ce travail, c'est un travail précédent sur les survivalistes. Donc, j'avais commencé en 2012 avec la fin du monde selon le calendrier Maya. Et je trouvais très beau cette histoire d'humains qui passent leur vie à se préparer à survivre. Il y avait un truc... en fait, le propre... Enfin, selon certaines personnes, le propre de l'humain... c'est qu'il est conscient de sa mort. Et donc là, on avait une espèce de super-humain tellement conscient de sa mort qu'il en devenait un peu fou, sans porter de jugement, mais qu'il restait là-dessus. Donc j'ai fait tout ce travail-là, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'un photographe survivaliste ? Puisque les survivalistes apprennent à faire un feu tout seul dans la forêt, et que finalement cet acte est d'un romantisme fou, c'est-à-dire que bien sûr que c'est beaucoup plus beau de savoir construire une cabane que de savoir bien tenir ses comptes ou de déclarer ses impôts. Tout le monde préfère le côté naturel de ça. Et donc, par jeu, je me suis dit, qu'est-ce qu'un photographe ferait s'il était tout seul dans sa forêt ? Et j'ai trouvé cette technique qui s'appelle l'entotype, qui est une façon de tirer les images en utilisant le côté photosensible des plantes.
Qui est une très vieille technique que vous remettez au goût du jour.
Oui, c'est une vieille. Il y a des images de 1860, mais qui n'a pas été développée parce que, après, les images fanent, en fait, elles se perdent. Donc, du coup, ça n'intéressait pas grand monde à cette époque-là. Et c'est comme ça que, du coup, en m'intéressant à la fois aux forêts et à la fois à ces techniques, j'ai lu un article, parce que je me base beaucoup sur les articles scientifiques. Pour trouver des pistes. Et j'ai lu un article qui s'appelait « Où sont les dernières forêts primaires d'Europe ?» Et donc j'ai appelé le référent français qui m'a dit qu'ils avaient appelé ça « forêt primaire » par esprit un peu de provocation, parce qu'en vrai, même dans le monde scientifique, on ne parle pas de forêt primaire vraiment. Et donc, en effet, en France hexagonale, il n'y en a plus. Mais il y a des forêts, ce qu'on appelle des forêts à caractère naturel. Ce qui déjà m'avait posé question, parce que pour moi, toutes les forêts sont à caractère naturel. Donc il y avait une espèce de point d'interrogation autour du mot naturel qui est arrivé. Et c'est là où j'ai commencé. En fait, il y avait un croisement de route entre la forêt primaire, c'est quelque chose qui ouvre en nous un imaginaire assez incroyable. Et ce côté plus terre-à-terre, plus scientifique, de ça n'existe plus, il y a des forêts à caractère naturel, et donc, par conséquent, des forêts qui ne sont pas à caractère naturel, et pourquoi et comment. Et c'est comme ça que j'ai contacté des conservateurs et des conservatrices pour aller voir ces forêts, aller discuter avec eux, et commencer à les documenter.
Et donc, ça donne des images de forêts très évanescentes, je disais oniriques, je trouve que c'est vraiment ça, de couleurs très différentes les unes des autres. Et donc, ces couleurs-là, c'est une extraction de la nature, vous broyez des pigments de plantes pour faire ces images. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu techniquement comment ça marche ?
Oui, alors les tirages qui sont visibles à Arles, il y en a de deux sortes. Il y a des grands formats où j'ai demandé à alors moi je l'appelle un pigmentier, mais je sais même pas si ce mot existe, un monsieur qui s'appelle Michel Garcia, qui est très connu dans la teinture végétale et qui a un jardin tinctorial, donc un jardin de plantes qui font de la couleur, et il m'a fait des pigments, donc il m'a fait un bleu indigo avec du persicaire, il m'a fait un jaune avec du réséda, un orange avec du coréopsis. Donc ça, sont des fleurs qu'il avait dans son jardin. Et moi, je lui avais juste demandé qu'on ne tue pas d'animaux, parce qu'on peut faire du rouge avec des cochenilles, et qu'on n'importe pas de bois, parce qu'on peut faire du violet avec un bois du Brésil. Mais voilà, qu'on reste sur son jardin. Et avec ces pigments, après, j'ai procédé un peu comme on le verrait dans des films anciens, quand les peintres y préparent leur peinture, donc avec du miel et de la gomme arabique, j'ai fait une peinture, c'est la recette pour faire de l'aquarelle. Et puis j'ai été voir un sérigraphe qui s'appelle French Fourche et qui accepte tout. Il a cette folie-là de quand on arrive, on peut arriver avec ses encres fait maison et tout ça, il n'a pas trop peur. Et on a travaillé ensemble pour imprimer ces images qu'on voit dans l'exposition, qui sont tantôt bleues, tantôt oranges, très, très pâle. Parce que, bon, déjà, j'aimais cette idée que c'est ce soit des fleurs qui impriment ces forêts. Mais au-delà de ça, ça permet de ne pas venir bousculer l'imaginaire d'une forêt primaire qu'on a en nous. C'est-à-dire, si j'avais fait un tirage en noir et blanc, ça aurait eu trop de réalité. Et je voulais rester dans l'onirisme de la forêt intouchée et pas casser cette image de la forêt qu'on a en nous. Et puis, il y a d'autres tirages qui sont derrière des volets parce qu'ils sont sensibles à la lumière. Et eux, c'est des tirages que j'ai réalisés moi-même en broyant des feuilles et en récupérant le jus de la chlorophylle et en faisant des tirages. Et donc, ceux-là, ils sont très, très fragiles. Et ils sont derrière des volets et le visiteur va décider d'ouvrir les volets pour les regarder, mais donc de les tuer un peu, ou de ne pas les regarder et de se dire, ben comme ça, ils vont vivre un peu plus. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les forêts, puisqu'on ne peut plus y aller pour qu'elles restent intouchées et qu'on ne s'amuse pas à écraser la faune ou bien mettre nos odeurs partout. Et en même temps, on a tous envie d'aller la voir. Donc, c'était une manière de faire l'expérience un peu du poids qu'on peut avoir sur ces lieux.
Ça fait penser aussi, je trouve, au mythe d'Orphée et d'Eurydice, vous savez, quand ils sortent des enfers et qu'il ne doit pas se retourner pour la voir, mais parce que son amour est très grand, il se retourne et...
Et du coup, il l'a détruit. Ouais. Il y a vraiment une espèce de tension un peu tragique dans cette idée. Moi, j'avais pensé aussi au Noli me tangere, c'est ne me touche pas, du Christ à Marie-Madeleine, même si c'est une référence un peu teintée, mais il y avait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que pour me préserver, tu ne peux pas me toucher.
Donc, il y a une partie de ces tirages, ceux qui sont photosensibles, qui sont amenés à se détériorer avec le temps. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'artiste de créer quelque chose en sachant qu'il va y avoir une date de péremption, en quelque sorte, de votre œuvre sur un média où il pourrait en être autrement, parce que c'est le cas dans la performance, c'est le cas d'une certaine manière dans les arts vivants, etc. Il n'y a pas le même rapport à la trace ou à l'empreinte, mais la photographie, par essence, c'est normalement le média de la durée, et surtout depuis le numérique. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, face à cette péremption possible ?
Ben ça s'apprivoise, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec l'idée que ces images allaient vivre même très peu de temps. Parce que si je les laisse à la lumière, c'est 3 mois, donc c'est vraiment très peu de temps. Mais après, c'était aussi, ça a permis aussi de... Moi, je dis que ça m'a permis d'être un artiste humble, dans le sens où... il faut accepter de pas faire tout le temps des choses qui vont aller dans le grand flot des choses qui vont rester pendant des centaines d'années. Et d'avoir cette fragilité de produire quelque chose pour très peu de temps. Après, c'est pas facile parce que moi, si j'ai choisi la photographie et même les stamps, c'est aussi parce que sont des multiples. Donc déjà, à la base, l'œuvre unique, j'ai déjà un petit peu de mal parce que quand on s'en sépare, on ne la retrouve jamais. Que les multiples, on peut en avoir 4-5 et du coup, on en a toujours un petit dans son atelier. Donc là, je passe de je vis avec les multiples à je vis avec l'œuvre unique qui va en plus mourir. Mais ça, c'est un peu comme avoir un bouquet de fleurs. C'est-à-dire qu'on en profite et puis après, on est content d'en avoir profité.
J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de photographes qui s'interrogent sur leur impact sur l'environnement via les tirages, via leur technique. Et l'année dernière, à Arles, il y avait une artiste qui s'appelle Almudena Romero qui présentait un travail qui s'appelait The Pigment Change, où elle faisait en quelque sorte pousser des tirages comme on cultive une plante sur des panneaux de cresson. Est-ce que vous, c'est une conversation que vous avez beaucoup avec d'autres artistes ou un enjeu que vous sentez monter dans le milieu de la photo ?
En tout cas, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mon mari, qui est artiste aussi, parce qu'on a... On a vécu des moments où, où on devait aller faire un festival à l'autre bout de l'Europe en avion. Et puis après, tous les tirages sont mis à la poubelle. Et ça, on a décidé de plus l'accepter. Et de faire en sorte que s'il y a de l'argent qui est mis et de la matière qui est mise dans des tirages, que ce soit quelque chose de durable et pas juste pour le mettre à la poubelle ensuite. Après, je pense que on est une génération un peu charnière dans le sens où on voit les choses arriver et que on est tous, enfin j'imagine qu'on est tous et toutes touchés par plus ou moins une plus ou moins grande éco-anxiété ou une plus ou moins grande solastalgie. J'espère. Moi, je vois de plus en plus d'œuvres qui se posent la question de ça. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'œuvres qui disparaissent ou qui changent dans le temps. Et je pense que c'est une traduction de cette vie dans ce moment.
Et c'est... est-ce que vous diriez que votre travail, votre œuvre, en tout cas dans cette mesure-là, est une œuvre très politique ?
Elle est engagée. Après, quand j'emploie le mot engagée, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez. Mais en tout cas, j'essaye d'être intègre entre ce que je vais dire, ce que je vais faire et ce que je vais montrer. Et ensuite, quand je me suis intéressée aux forêts, j'étais loin de me rendre compte que c'était un territoire très politique, finalement. Puisque entre les gens qui veulent les conserver coûte que coûte et les rendre sauvages, enfin, leur rendre leur sauvagité, je sais pas comment dire, et d'autres qui ont besoin de ces forêts, comme certaines mairies, enfin certains villages ou villes, qui ont besoin d'exploiter ces forêts pour en tirer de l'argent et donc à pouvoir financer d'autres choses. Il y a plein d'autres acteurs, en passant par les chasseurs, les gens qui veulent pouvoir se promener aussi dans les forêts. Et tous ces gens-là, c'est finalement l'histoire de comment un lieu est exploitable, que ce soit par la promenade ou par on coupe les arbres. Et finalement, je me suis demandé si est-ce qu'une forêt laissée à elle-même, où l'humain n'a même pas le droit de rentrer, est-ce que c'est pas complètement révolutionnaire parce qu'elle ne génère pas d'argent et ni de plaisir à l'humain, à part juste de savoir qu'elle existe.
Et la poésie, elle vient de ça aussi.
Mais je me demande si c'est pas beau, enfin en tout cas c'est très positif de l'imaginer comme ça, de se dire que ces forêts sont des petites révolutions.
Les rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Léa Abourdin. Et j'en profite pour vous parler de notre série Un autre regard, mini-série de notre podcast Une autre histoire, consacrée cette année au récit des grandes femmes photographes qui ont changé cet art. Vous entendrez Julie Gayet vous raconter les vies fascinantes de Lee Miller, Virginia Castiglione ou encore Gerda Taro. Je suis Charlotte Pudlowski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.